Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Salut, c'est Hugo de Hugo Décrypte, bienvenue sur le podcast des actus de Mashup. Alors chaque mercredi à 20h dans mon émission Mashup en live sur la chaîne Twitch Hugo Décrypte, on revient sur deux grands sujets d'actualité et on prend le temps d'en discuter ensemble avec mes invités dont vous pouvez retrouver les informations en description. Bref, si jamais vous loupez une fois le live sur Twitch, eh bien pas d'inquiétude puisque donc le podcast est là. N'hésitez pas à vous abonner, mais c'est pas encore le cas, pour ne pas louper les suivants et pour découvrir l'autre séquence de cette émission, à savoir ma rencontre chaque semaine avec une grande personnalité pour revenir sur son parcours, eh bien vous pouvez taper Mashup l'interview. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je vous souhaite une bonne écoute. La présidentielle, c'est donc dans une poignée d'heures, ça ne vous a pas échappé, c'est pas comme si on en avait un petit peu parlé ces derniers jours sur la chaîne, ça arrive donc forcément dimanche et aujourd'hui on va prendre le temps d'en parler ensemble puisque forcément il y a pas mal de choses à évoquer sur l'évolution de l'opinion ces derniers jours. On a des sondages qui sortent quasiment, enfin même tous les jours, et voire plusieurs fois par jour. On a des hypothèses, des perspectives, des candidats qui essaient de se placer. Et donc, on va pouvoir en parler. Et heureusement, je ne vais pas en parler tout seul. Je vais en parler avec Antoine Mauriciel. Bonjour.
Bonjour.
Ça fait plaisir de te recevoir. Bienvenue.
Merci.
Bienvenue. Tu es directeur de l'Observatoire de l'Opinion de la Fondation Jean Jaurès. Merci d'être avec nous.
Plaisir.
Je précise, là aussi, visiblement, c'est le cas beaucoup ce soir, qu'on peut te suivre sur Twitter.
Exactement.
Toujours très intéressant, là aussi, de pouvoir te suivre sur Twitter. N'hésitez pas, on va l'afficher à l'écran, dans quelques instants. Pour commencer, avant qu'on rentre, évidemment, et qu'on parle de la présidentielle, pour expliquer un peu ton travail, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire, directeur de l'Observatoire de l'Opinion de la Fondation Jean Jaurès, en quoi consiste ton travail un peu au quotidien?
La Fondation Jean Jaurès, c'est un laboratoire d'idées qui essaye un peu d'éclairer le débat public. Et en tant que directeur de l'Observatoire de l'Opinion, c'est un peu d'essayer de suivre la vie politique française, de voir ce que pensent les Français sur différents sujets, et de suivre aussi les élections pour voir un peu quelles sont les grandes dynamiques et essayer de les expliquer.
Donc tu suis forcément la présidentielle en ce moment. Première chose, on est mercredi, à 4-5 jours de cette mesure présidentielle, tout va bien. J'en perds carrément mon sens du temps, j'ai envie de te poser une question assez simple qui est cette question des sondages, juste pour commencer là-dessus, parce que moi je sais et je le vois dans les actus du jour, dès qu'on en parle d'un sondage, dès qu'on évoque un sondage, on a plein de réactions de gens qui disent mais les sondages, on peut pas se baser dessus, ça veut rien dire, machin. Quel regard est-ce que toi tu portes déjà sur cette question des sondages, y compris là à 3-4 jours de l'élection présidentielle, et alors que les candidats eux-mêmes quand même en parlent beaucoup quand ça leur est
favorable? Quand ça les arrange, c'est clair. En fait, les sondages, il faut vraiment les prendre pour ce que c'est, c'est-à-dire c'est une photographie du paysage politique à un moment donné. C'est-à-dire c'est jamais une prédiction de ce qui va se passer dans le futur, et quand on a un sondage 5 jours avant l'élection présidentielle, c'est ce que pensent un peu les Français à ce moment-là, mais ça peut encore évoluer. Et là, tu vois, par exemple, quand on regarde la situation actuelle, on a les chiffres sur les différents candidats, le niveau auquel ils se situent, mais on voit aussi qu'on a seulement 7 Français sur 10 qui sont certains d'aller voter, et c'est sûr, c'est 7 Français sur 10 que les sondages sont faits, et on voit aussi qu'il y a encore un tiers des Français qui sont pas sûrs de leur choix et qui peuvent encore changer. Donc ça montre qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer et que le résultat actuel, mais il peut encore largement changer d'ici dimanche.
Et justement, tu parlais de cette abstention. Qu'est-ce que ça peut entraîner? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, le fait qu'on ait un risque d'abstention aussi important, y compris par rapport au sondage? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle surprise, c'est bizarre de dire comme ça, parce que de fait, du coup, on ne sait pas, mais qu'est-ce que l'abstention pourrait entraîner d'un point de vue de l'électorat? Et ça peut profiter à qui? Ou ça peut, à l'inverse, défavoriser quel candidat en général?
Alors, c'est sûr que là, quand on regarde le niveau d'abstention à 4 jours de la présidentielle par rapport au même niveau en 2017, on aurait potentiellement une abstention plus importante. Donc, ce qui montre bien qu'il y a quand même une question démocratique qui se pose, et peut-être qu'on reviendra là-dessus. Ce que l'on voit après sur les dynamiques des candidats, des différents candidats, c'est que plus le niveau d'abstention est élevé, plus on va voir que généralement ce sont les jeunes qui ne vont pas être allés voter, ce sont aussi les classes populaires qui ne sont pas allées voter. Donc, plus le niveau d'abstention est élevé, plus ça va défavoriser les candidats qui sont enfin, qui se base en particulier sur les jeunes, qui se base également sur les catégories populaires, et c'est en particulier le cas de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Donc c'est pour ça qu'on a des appels de ces candidats en particulier pour avoir une mobilisation de leur électorat, parce qu'ils savent que plus les gens participent, ben, plus ça va avoir tendance à les favoriser.
Les appels à aller voter, on les voit aussi chez d'autres personnalités politiques, y compris Emmanuel Macron, ou en tout cas La République En Marche, qui font campagne en ce moment, qui appellent à voter massivement. Dans le cas d'Emmanuel Macron, quand il y a ce discours qui est porté, alors que on comprend bien que c'est pas les jeunes ou les classes populaires qui votent majoritairement pour Emmanuel Macron aujourd'hui. Comment est-ce qu'on explique cette volonté pour Emmanuel Macron de dire il faut quand même aller voter ? C'est une question de légitimité dans le cas où, évidemment, tout ça est très hypothétique, mais dans le cas où Emmanuel Macron serait réélu ?
Oui, complètement, parce qu'on se rend bien compte que plus le nombre de personnes qui allaient voter est important, plus le corps électoral s'est mobilisé, ben plus celui qui va ressortir vainqueur, il va être légitimé par ce qui s'est passé. Alors qu'au contraire, si on a une abstention qui est massive, hein, pour les dernières régionales, on avait quand même 2/3 des Français qui s'étaient abstenus, on voit bien que c'est quand même plus compliqué pour la personne qui est élue d'être vraiment considérée comme légitime. Et si le président ou la présidente qui est élue veut mettre en place des mesures politiques qui peuvent être un peu clivantes, si elle repose sur une légitimité qui est assez faible, ben ça peut poser des problématiques justement.
Justement, la stratégie d'Emmanuel Macron ces derniers jours, on l'a bien vu, même s'il commence à faire quand même de plus en plus de médias, mais ça a été quand même de faire une campagne qui a débuté tardivement, alors que lui justifie par la guerre en Ukraine et par le fait qu'il y a une occupation qu'on peut imaginer quand même sur un certain nombre de sujets. Mais certains candidats l'accusent de ne pas faire campagne, de refuser des débats, ça il l'a déjà dit. Est-ce que cette stratégie, l'objectif derrière, c'est quoi ? C'est de se dire... Dès que si je prends la parole, je prends des risques. Ou c'est quoi la stratégie derrière ça ?
Il doit y avoir cette stratégie-là, en effet, de se dire bon, il faut mieux éviter de prendre des coups et ne pas descendre dans l'arène avec les autres candidats qui vont forcément avoir une volonté de critiquer le bilan du président. Ça peut être dangereux. Mais je pense que Emmanuel Macron, il a été un peu pris à son propre piège d'une certaine manière, parce que au moment de la guerre en Ukraine. On voit que dans tous les pays, hein, généralement, il y a ce phénomène de ralliement sous le drapeau, le fait que ça augmente la cote de popularité de la personne qui est au pouvoir, parce qu'elle est considérée comme celle qui est un peu garante de nos institutions, qui est en mesure de répondre à la situation. Et donc là, il avait
On le voit d'ailleurs, je me permets de le dire, là, l'effet, enfin, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais la guerre en Ukraine, donc c'était aux alentours là, du 24 février, hein, c'est ça. Et donc on voit une augmentation, avant une baisse d'ailleurs, mais une augmentation d'Emmanuel Macron suivant ça.
C'est ça, certains instituts avaient mesuré une augmentation de 7 points des intentions de vote au premier tour, et il avait vraiment bénéficié de ce phénomène de ralliement sous le drapeau qui est propre aux crises majeures qu'on avait vues dans la plupart des crises, hein, que ce soit par exemple les attentats de Charlie Hebdo qui avaient largement bénéficié dans la cote de popularité de François Hollande, ou même la guerre en Irak pour George Bush. Donc il y a toujours ce phénomène-là qui se passe. Le problème pour Macron, c'est que ça a eu tendance à s'éroder assez rapidement, ce phénomène, d'une part, et que derrière, son entrée en campagne avec des propositions qui étaient très marquées à droite, avec notamment des propos sur le RSA, sur la retraite, ça a pu, entraîner une certaine défiance d'une partie de l'électorat, et notamment de l'électorat de gauche, et on le voit dans les reports de vote, si on a un potentiel second tour entre Macron et Le Pen, il y a quand même une large partie de l'électorat qui déclare qu'elle s'abstiendra parce qu'elle n'est pas d'accord avec les propositions qui ont été proposées par Macron.
Donc, il y a quand même un effet sur les mesures qui sont portées par Emmanuel Macron aujourd'hui, qui peut avoir un impact dessus. Si on remonte d'ailleurs, et d'ailleurs je suis curieux d'avoir ton retour là-dessus, parce que ce qu'on a montré à l'instant, c'est non pas l'évolution sur un sondage, mais c'est une forme de moyenne, alors je sais pas comment est-ce qu'on pourrait qualifier ça.
Une aggregation des différents
différents sondages qui a été réalisé par Context, on va pouvoir l'afficher encore à l'instant, dans quelques instants à l'écran. C'est vrai qu'on a des écarts parfois entre certains sondages, et c'est une question que se posent beaucoup certaines personnes. On voit un sondage où Le Pen va être à 25, l'autre à 21, et on peut se dire, mais comment on peut avoir un écart aussi important, entre guillemets. Comment est-ce que toi, déjà, comment est-ce qu'on peut l'expliquer pour quelqu'un qui vraiment ne connaît pas le fonctionnement des sondages ? Et est-ce qu'une solution potentielle, selon toi, c'est ce genre d'outils aujourd'hui ?
Oui, complètement. Quand on agrège les différents sondages les uns avec les autres, ça permet quand même de voir ce qui est en train de se passer. Et surtout, il faut lire un peu les sondages en termes de dynamique. Là, quand on regarde les dynamiques qui sont affichées à l'écran, on voit clairement qu'on a deux candidats qui sont en très forte progression, c'est Mélenchon, Le Pen, et qu'on a à côté de ça trois qui sont plutôt en train de redescendre, c'est Macron, Zemmour et Pécresse. Et après, pourquoi des différences aussi importantes entre les sondages ? C'est parce que les sondages, ils se basent uniquement sur les personnes qui se déclarent certaines d'aller voter. Or, ils ont des mesures qui sont différentes d'un sondage à l'autre pour mesurer la certitude d'aller voter. Ce qui fait qu'ils vont prendre des échantillons qui sont plus ou moins importants, qui vont enlever plus ou moins de personnes de leur échantillon, et que, comme on le disait, les abstentionnismes, ils ont une couleur politique. C'est plutôt des jeunes, c'est plutôt des classes populaires qui vont davantage voter pour un certain type de parti, et donc ça modifie les rapports de force.
Donc on voit aussi que la question de l'abstention est essentielle ici. Justement, tu parlais de deux candidats qui sont sur une dynamique assez importante ces derniers jours. C'est à la fois Marine Le Pen et à la fois Emmanuel Macron. On peut remettre encore une fois tant qu'on y est sur le différent la différente carte. Comment est-ce qu'on explique un peu ces deux dynamiques si on est en mesure de l'expliquer? On peut commencer par Jean-Luc Mélenchon. On voit une montée quand même assez importante ces derniers jours, qu'on avait d'ailleurs observée en 2017, il me semble, où il y avait une montée progressive de Jean-Luc Mélenchon. Comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer? Quels sont les éléments éventuels d'explication?
Il y en a plusieurs. La première chose, c'est qu'on ne peut pas dénier à Jean-Luc Mélenchon le fait d'être excellent en campagne, de réussir à, on le voit notamment dans son utilisation des nouveaux médias, de pouvoir parler à un public différent des autres candidats. Donc il réussit toujours très bien ses campagnes électorales. Ça, c'est une première raison. La seconde, c'est qu'on a la question du pouvoir d'achat qui est devenue la préoccupation principale des Français. Il y a plus d'un Français sur deux qui dit c'est l'enjeu principal pour moi à l'heure actuelle. C'est 30 points de plus que les enjeux qui viennent derrière.
Sûrement avec la guerre en Ukraine aussi qui a...
La guerre en Ukraine a renforcé ça, effectivement. Puis on se rend compte aussi qu'il y a un phénomène de vote utile à gauche, très clairement. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'électeurs de gauche qui se disent peut-être que Mélenchon, c'était pas forcément le candidat que je préférais, mais moi, je veux avoir un candidat de gauche au second tour, et c'est ma responsabilité de voter pour le candidat qui est en tête, et ça crée cette dynamique-là.
Ce qui est même parfois, d'ailleurs, j'ai l'impression, ces derniers jours, assumé pas mal par le camp de Jean-Luc Mélenchon, j'ai vu passer, je crois que c'était Caroline Delas encore hier, sur un post sur Instagram, qui disait vous avez le droit de ne pas aimer, Jean-Luc Mélenchon, entre guillemets, en tant que personne, ou de ne pas aimer certains aspects de sa personnalité, voter pour le candidat qui se rapproche le plus de vos idées. Et donc c'est la question du vote utile aussi.
C'est la question du vote utile, et je pense qu'elle a pris une tournure encore plus importante parce que les sondages du second tour entre Macron et Le Pen montrent que Marine Le Pen est en position de gagner l'élection présidentielle si elle se retrouve face à Emmanuel Macron. Donc il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui se disent finalement la meilleure solution pour que Marine Le Pen ne soit pas élue présidente, c'est de faire en sorte qu'elle ne soit pas au second tour. Donc autant voter pour le candidat qui est en tête de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, même si ce n'est pas celui qui correspond le plus à nos idées, mais ce sera quand même une assurance par rapport à cette dynamique du Rassemblement.
Là, on voit l'évolution des intentions de vote pour un second tour, encore une fois, potentiel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ce que ça montre, c'est donc que le vote utile, le barrage au Front National, au Rassemblement National, qui était quelque chose qui existait pendant longtemps, est passé, si je comprends bien ce que tu dis, d'un barrage qui avant se faisait au second tour avec le candidat qui était face à la personne du Rassemblement National, à un barrage dès le premier tour en faveur d'un candidat qui pourrait éliminer Marine Le Pen.
C'est sûr que le barrage, s'il est fait le plus tôt possible, c'est quand même l'assurance que la personne ne soit pas élue. Et en effet, on voit que l'idée d'un front républicain au second tour, c'est quelque chose qui est quand même de moins en moins partagé par les Français. Ça fait quand même depuis 2002 qu'on entend parler du front républicain. Il y a beaucoup d'électeurs qui se disent voter toujours contre ce que je pense, c'est pas forcément quelque chose qui est très agréable. À côté de ça, on a eu une vraie entreprise de normalisation de Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'elle a essayé de lisser de plus en plus son discours, d'avoir des positions un peu plus sociales sur les questions économiques, et puis elle a quand même bénéficié de manière extrêmement importante du fait qu'il y ait Éric Zemmour dans cette campagne, parce que d'avoir un candidat qui a des positions qui sont beaucoup plus radicales, notamment sur toutes les questions culturelles, d'immigration, ça l'a fait finalement passer pour une candidate normale, ça l'a crédibilisé aux yeux de l'opinion publique, ce qui fait qu'elle inspire beaucoup moins de peur qu'auparavant, et c'est ce qui crée cette situation de second tour avec une marge vraiment minime.
C'est la fameuse fenêtre d'Overton dont on entend beaucoup parler, qui Éric Zemmour est venu banaliser, je ne sais pas comment le terme peut être utilisé, mais dans le champ des possibles, des idées qui peuvent être transmises dans le cadre d'un débat public, est venu quelque chose encore plus à droite que Marine Le Pen sur un certain nombre de sujets, et donc de ce que tu dis, c'est que Marine Le Pen est apparue comme davantage acceptable, quand bien même son programme sur les dernières semaines n'a pas évolué, parce que c'est toujours le même.
C'est ça qu'il faut rappeler quand même, c'est que quand on regarde sur le long terme l'évolution du programme du Front National puis du Rassemblement National, en particulier sur toutes les questions d'immigration, sur toutes les questions culturelles, il n'y a aucune évolution. C'est une candidate qui est toujours autant d'extrême droite qu'auparavant, c'est juste qu'elle apparaît comme plus consensuelle, et notamment parce qu'il y a Éric Zemmour à côté.
Donc ça lui a favorisé en l'occurrence tout ça. Autre question assez importante, du coup justement, c'est celle d'Éric Zemmour qui, encore une fois, les sondages ont montré des tendances et des évolutions ces derniers mois. Il était assez haut pendant longtemps, il est retombé au fil, enfin, là ces derniers jours, un peu plus bas, parfois sous la barre des 10%, même si, je le dis une fois, une deuxième fois, une troisième fois, c'est une cartographie de l'opinion à un instant T, c'est ni une prédiction, ni un pronostic, ni quoi que ce soit. Il peut y avoir des surprises comme il y en a à chaque élection. Mais cette baisse éventuelle qui se confirmera peut-être, du coup, on verra dimanche, comment est-ce qu'on pourrait l'interpréter? Elle serait due à quoi du côté d'Éric Zemmour?
Il y a trois éléments qui peuvent rentrer en jeu. Le premier, c'est que Éric Zemmour, c'était quand même une construction médiatique de l'automne, c'est-à-dire que tous les médias en ont parlé de manière extrêmement importante, ce qui a entraîné une visibilité futur candidat à l'époque, ce qui l'a fait monter dans les sondages. Et derrière, on se rend compte que c'est plus difficile de pouvoir continuer sur cette dynamique-là quand on n'a pas forcément une base sociologique solide, quand on n'a pas forcément un appareil partisan derrière soi. Et donc là, c'est assez compliqué. Le deuxième élément, c'est que en fait, on se rend compte que dans les transferts de voix qu'il y a entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, ce n'est pas tant des différences idéologiques majeures qui vont expliquer ces transferts de voix, mais c'est un aspect qui est purement stratégique. Les personnes qui vont aller de l'un à l'autre, c'est parce qu'elles considèrent que soit Zemmour dans un premier temps, puis Marine Le Pen maintenant, est en meilleure position pour se qualifier au second tour et pour l'emporter. Et à partir du moment où elle a réussi à faire un petit écart avec Éric Zemmour, il y a beaucoup des électeurs d'Éric Zemmour qui se sont dit « Bon, on aurait préféré voter Zemmour, mais Le Pen, c'est peut-être la moins mauvaise solution pour nous. » Puis la troisième explication à cette baisse d'Éric Zemmour, c'est que lui, il est extrêmement fort chez les personnes dont les enjeux de préoccupation, c'est l'immigration et l'insécurité. Par contre, quand on rajoute la question du pouvoir d'achat à cela, on se rend compte que c'est Marine Le Pen qui a le lead au sein de l'électorat. Et le fait justement que c'est la préoccupation majeure des Français maintenant, le pouvoir d'achat, ça bénéficie de manière automatique à Marine Le Pen plutôt qu'à Zemmour.
Pour ceux qui demandent d'ailleurs ce qu'on a montré de nombreuses minutes là dans le cadre de notre discussion sur le site de Contexte, je vous mets le lien directement dans le chat. Et pour ceux qui regarderont en rediff, on mettra ça en description pour découvrir tout ça. Donc ça, c'est le cas d'Éric Zemmour. Au passage, tu dis il y a une forme de peut-être pas de construction médiatique, mais si, il a été monté aussi par une visibilité très très importante dans les médias à la fin de l'année 2021. Un autre candidat où il y avait eu cette analyse-là ou ces retours, c'était Emmanuel Macron en 2017. Sauf que, on l'a bien vu, Emmanuel Macron, ça a tenu suffisamment pour en arriver à une élection. Comment est-ce que tu vois la différence là-dessus? Est-ce que c'est que... comment est-ce que tu expliques du coup que ce soit retombé pour Zemmour alors que ce soit à ce point tenu pour Emmanuel Macron?
En fait, je pense qu'il y a effectivement des éléments communicationnels de court terme. Alors le fait d'être hyper médiatisé à un moment donné, ça sert un candidat. On l'a vu dans le cas de Zemmour, on l'a vu dans le cas de Macron effectivement en 2017. Mais il faut aussi prendre la réalité politique un peu plus sous-jacente par rapport à ça. Et on voit qu'en 2017, on avait finalement une sorte d'espace qui s'était créé pour Emmanuel Macron entre le PS et les Républicains. Et donc sur cet espace sociologique, sur cet électorat, il avait une réserve de voix, il avait un potentiel pour créer quelque chose. Alors que Éric Zemmour, finalement, il est quand même un peu coincé entre les Républicains d'un côté, qui ont eu aussi une ligne très dure pendant leur primaire, on se souvient quand même que ça parlait que d'immigration et d'insécurité finalement. Et de l'autre côté, Marine Le Pen, qui est là, qui est implantée, qui a une base électorale solide, qui a su faire une campagne un peu de terrain sur ces derniers mois, et qui est une candidate qui a de l'expérience. Donc c'était difficile pour lui de trouver un espace entre les deux.
Donc pour résumer, là où Emmanuel Macron a saisi justement un espace qui, parfois par chance, mais en fait a réussi à s'ouvrir à lui avec François Hollande qui ne se présente pas, avec les affaires à droite, etc.
Exactement.
A réussi à saisir dans l'espace, Éric Zemmour a lui davantage permis d'une certaine façon à une autre candidate d'extrême droite, Marine Le Pen, d'aller prendre...
Il lui a fait la courte échelle, clairement.
...de la place ces derniers jours. Et je serais curieux d'ailleurs, on ne saura pas la réponse, mais ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, mais de savoir si Marine Le Pen anticipait cet effet-là, parce qu'il y a eu quand même, c'était en fin d'année ou en début d'année, beaucoup de départs, et encore dans la dernière semaine, de proches de Marine Le Pen, Nicolas Bay notamment, vers Éric Zemmour. On peut imaginer qu'à ce moment-là, du côté de Marine Le Pen, il y a un petit moment de flottement et de stress, de oula, est-ce que le vent n'est pas en train de tourner?
C'est clair, je pense qu'à l'automne notamment, il y a eu du flottement. Quand elle a vu qu'Éric Zemmour, en l'espace de quelques semaines, passait de chroniqueur sur CNews à quasiment 15% dans les sondages, je pense qu'elle s'est quand même un petit peu inquiétée de la situation. Mais derrière, dans une seconde partie de la campagne, à partir de février, elle a vraiment décidé d'avoir une campagne beaucoup plus de terrain, de parler aux gens, d'aller dans les campagnes, d'aller dans les villes, de pouvoir rencontrer directement les gens. Et c'est un point qui lui est reconnu à Marine Le Pen, c'est-à-dire d'être proche des Français, d'être proche des préoccupations des Français. Et ça lui a largement bénéficié. Et aussi, elle a un peu essayé de ne pas faire de propos polémiques. Et on le voit sur l'Ukraine, parce qu'elle aurait pu quand même pâtir beaucoup plus de la crise ukrainienne que
oui, que d'ailleurs, certains nombre de propos, des interviews, etc. ont été ressortis ces derniers jours, mais peut-être pas autant qu'Éric Zemmour.
Complètement. Alors que lui, il a enchaîné un peu les déclarations polémiques, notamment en disant que la guerre en Ukraine, c'était une distraction par rapport au vrai phénomène qui touchait la société. Donc ça a eu clairement un impact, le fait de se retrouver avec Éric Zemmour qui prenait toute l'attention négative à ce moment-là.
Donc ça lui a permis une forme de silence aussi ces derniers jours, lui a permis au final de ressortir de cette séquence-là. C'est un sujet qui est passionnant, forcément, la présidentielle et ce qui se passe ces derniers jours. J'aurais encore beaucoup de questions à te poser. J'ai peut-être une dernière question, parce que tu parlais de l'impact de la campagne de Marine Le Pen, le fait qu'elle ait fait beaucoup de déplacements sur le terrain, qu'elle ait tenté, en parlant beaucoup de pouvoir d'achat, etc., de se rapprocher comme ça des Français. C'est la question des déplacements. C'est une vraie question que je me pose et je n'ai pas du tout la réponse. Dans quelle mesure est-ce que ce genre de déplacement, le fait d'aller, n'importe quoi, mais dans un petit village, aller rencontrer des habitants, faire les marchés, etc., ça a un impact sur la façon dont les Français voient tel ou tel candidat? Parce que, ma question est très bête, mais est-ce que les gens, au final, voient ces déplacements-là? Est-ce que, si oui, comment? Est-ce que c'est via la couverture que les médias en font? Quel impact que ça peut avoir aujourd'hui? Et je terminerai cette question beaucoup trop longue par justement, si on parle de notre génération, peut-être des plus jeunes, des jeunes qui ont la vingtaine là, qui vont aller voter, qui s'informent pas forcément via le JT de 20h ou des médias plus traditionnels. Je suis pas sûr qu'ils étaient au courant des déplacements de Marine Le Pen dans telle ou telle région. Comment est-ce que tu vois l'utilité et l'impact éventuel de ce genre de déplacement?
Alors, je pense qu'il faut regarder à quel électorat essaye de parler chaque candidat. Marine Le Pen, elle essaye très clairement de parler à un électorat de classe populaire, qui est plutôt rural. Et donc, effectivement, le fait de se mettre en scène en allant aux côtés de la population, d'aller serrer des mains sur des marchés, ça peut avoir un impact direct sur les personnes qui la voient, mais c'est surtout le relais médiatique qui peut être fait qui va avoir un impact assez important à ce moment-là. Et on voit que la façon d'avoir une proximité avec son électorat, ça peut passer par d'autres moyens. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, lui, son électorat est beaucoup plus constitué de jeunes, il parle beaucoup à la jeunesse et il essaye justement d'utiliser les réseaux qui sont propres à la jeunesse pour pouvoir diffuser son message auprès d'un électorat qu'il espère pouvoir acquérir.
Très très intéressant, merci beaucoup
pour
ton temps aujourd'hui, c'était passionnant de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Je te suis notamment sur Twitter, c'est que c'est du coup toujours des analyses très pertinentes. N'hésitez pas à suivre Antoine sur Twitter. Pareil, je sais pas encore le cas. Antoine Bristiel, faites monter ce nombre de followers. Mais on voulait en plus des analyses intéressantes sur ce qui se passe actuellement. Voilà, merci vraiment pour ton temps aujourd'hui. Peut-être à bientôt pour suivre
ça
dans les prochains jours. Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé. En description, je vous mets des petits liens pour en savoir plus et pour découvrir donc mon format d'interview dans le cadre de cette émission Mashup, interview de personnalités qui soient sportive, journaliste ou encore artiste, eh bien vous pouvez taper Mashup l'interview directement sur votre application de podcast. Écoutez, prenez soin de vous et on se dit à très vite.